Shift to Digital, basculer dans le digital, c'est le nom de ce plan de restructuration qui laisse deviner que l'entreprise va se séparer des plus âgés, moins adaptés aux nouvelles formes de communication pour engager des jeunes, sans doute mieux formés aux nouvelles technologies, mais aussi moins coûteux. Décryptage avec Olivier Rosenwag.
Son nom, Shift to Digital, traduction mutée vers le digital. Un plan de transformation et une ambition portée par la patronne de Proximus, engager l'entreprise dans le virage numérique, quitte à sacrifier des travailleurs, un mal nécessaire pour ce chef d'entreprise.
Quelqu'un qui travaille dans l'administration, dans des fonctions de support, ces profils-là, on en a besoin moins que, par exemple, des experts en cybersécurité.
Mais en croire ce journaliste spécialisé, ce plan de transformation répond surtout à une autre ambition.
Le numérique prend de plus en plus d'importance, évidemment pour une société comme Proximus aussi, mais c'est vrai qu'un des gros défis de Proximus aujourd'hui, eh bien, c'est ce problème de masse salariale qui a déjà été identifié depuis de nombreuses années.
Passé en 25 ans de 24 000 à 13 000 salariés, Proximus est une masse salariale encore deux fois supérieure à celle de ses concurrents directs, avec une particularité propre à cette entreprise publique.
Il reste un quart du personnel qui est statutaire, c'est les personnels les plus âgés, c'est sans doute ceux qu'on va aussi essayer de former peut-être vers de nouveaux métiers, mais s'ils ne font pas ces formations, c'est probablement eux qui devront prendre le plan de départ.
Des statutaires en ligne de mire et 1950 travailleurs poussés vers la sortie, remplacés par des nouveaux venus au profil déjà tout tracé.
Ce sont des gens qui ont suivi des études plutôt technologiques, donc des informaticiens, des experts en sécurité, des gens qui savent utiliser la technologie et qui savent déployer la technologie.
Une opportunité pour 1250 nouveaux collaborateurs appelés à poursuivre l'énième mutation d'une entreprise vieille de 89 ans.
Exactement. Alors Proximus compte aujourd'hui environ 13 000 travailleurs. C'est beaucoup si l'on compare avec ses deux autres opérateurs belges. D'un côté, Telenet, qui compte, vous le voyez, 3 200 travailleurs, soit 4 fois moins que Proximus. Et puis Orange Belgium, là, c'est 1450 travailleurs, soit 9 fois moins. Proximus fait donc figure de géant dans ce secteur qui nécessite beaucoup de réactivité, ce qui pousse cette entreprise aujourd'hui à se restructurer.
Alors question, est-ce que les autres entreprises de télécom historiques ailleurs en Europe ont dû faire face à ce même genre de problème et faire le même genre de restructuration?
Eh bien, prenons la France. Orange comptait jusqu'il y a peu 92 000 employés. Et en 2015, eh bien, l'opérateur français a décidé de réduire son effectif. Résultat, moins 5 000 personnes par an pendant 5 ans, vous le voyez. Mais parallèlement à cela, et ça fait évidemment écho à l'annonce de Proximus, eh bien, Orange engage environ 2 000 nouveaux collaborateurs par an. Alors toujours en France, SFR et Bouygues ont également connu plusieurs vagues de licenciements ces dernières années.
Est-ce que la France est un cas isolé ou est-ce que le schéma se répète ailleurs en Europe ?
Eh bien, il semble se répéter. KPN, vous le voyez, ça c'est l'opérateur historique néerlandais. En octobre dernier, eh bien, ce groupe a annoncé la suppression de 1500 emplois sur 3 ans. Et puis en Allemagne aussi, Deutsche Telekom prévoit de licencier près de 6000 personnes d'ici 2021. Vous l'aurez donc compris, c'est tout le secteur des télécommunications qui est touché par ces plans de restructuration et qui doit aujourd'hui s'adapter.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dominique Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Proximus, on le sait, est au centre de l'actualité. 1900 emplois aussi, par la force des choses. Vous êtes donc à la une de l'actualité et vous êtes notre invité ce soir dans Jeudi en prime. Vous avez donc tranché, le mot n'est pas trop fort et pas du tout facile non plus pour votre personnel. Il n'est pas facile pour vous non plus lors de votre convocation. On va le voir chez le Premier ministre. Il vous aurait dit de revoir votre copie, vrai ou faux. On le verra dans quelques instants. Proximus est une entreprise plus que rentable, qui fonctionne très bien. Même si vous ne le dites pas aussi fort, on a l'impression que pour construire l'avenir de l'entreprise, c'est le digital ou c'est mourir. Le personnel donne aussi aujourd'hui l'impression de ne pas vouloir se laisser faire. On va l'entendre.
Bonjour monsieur.
Ça reste choquant.
la manière dont ça s'est passé est totalement inacceptable en tant qu'organisation syndicale. On a prévenu la presse, on a prévenu le monde politique, hein, et puis on vient pour prévenir le représentant des travailleurs qui ont fait vivre Belgacom et Proximus jusqu'à présent. Dominique Leroy, on va s'expliquer sur tout ça, sur ce qu'on appelle aussi le timing. On vient de l'entendre, c'est dur pour le personnel. Est-ce que les 1900 emplois qui vont être supprimés seront tous des licenciements secs ?
Mais je pense qu'il faut d'abord que je dise qu'il ne s'agit pas exclusivement d'un plan de licenciement, ce dont on parle beaucoup et ce qui est vraiment important, et ça suscite beaucoup d'émotions dans l'entreprise. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un plan de transformation de l'entreprise pour faire face à des demandes qui sont de plus en plus importantes de nos clients sur des solutions digitales, sur plus de connectivité. Et donc on a effectivement un regard d'un certain nombre de tâches et de fonctions qui vont petit à petit effectivement disparaître et de l'emploi potentiellement lié à ça, on a aussi toute une série de secteurs, de domaines où nous pouvons engager des gens ou transférer des gens pour assurer le futur et l'avenir de l'entreprise.
Combien de licenciements secs y aura-t-il ?
Impossible à vous répondre aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait prématuré.
Alors ce chiffre de 1900 licenciements, il est prématuré ?
Le chiffre qui a été discuté et approuvé en conseil d'administration, c'est un chiffre de 240 millions d'euros de plans d'économie pour pouvoir réinvestir une grande partie de ce montant dans la digitalisation, dans la fibre optique et dans des nouveaux services. C'est vrai qu'en regard de ça, ce que nous avons regardé, c'est est-ce qu'il y a effectivement un certain nombre de domaines où une automatisation, une digitalisation ou un moins grand nombre de tâches vont réduire les demandes d'emploi et réduire effectivement le nombre. Et ça, c'est dans les calculs préliminaires que nous avons faits.
Dominique Leroy, vous confirmez ou pas le chiffre tout de même de 1900 licenciements ?
Non, je ne dis pas qu'il y a 1900 licenciements. Il y a potentiellement 1900 emplois qui peuvent disparaître. Et dans ce cadre-là, on commence aujourd'hui des discussions avec les partenaires sociaux pour voir justement quelles sont les possibilités pour faire peut-être des formations pour pouvoir faire bouger ces gens, faire peut-être d'autres méthodes que des licenciements dont vous parlez, offrir peut-être le choix aux employés eux-mêmes de potentiellement prendre d'autres jobs ou de quitter l'entreprise. Et donc tout ça, c'est encore des choses qui risquent de changer, de bouger dans le contexte des négociations sociales.
Dominique Leroy, vous parlez aussi de gens qui vont être engagés. Ce sera quel type d'emploi ? Est-ce que ça des personnes qui vont travailler pour des durées très limitées, des consultants par exemple ? En plus, on dit parfois qu'il y a beaucoup trop de consultants chez Proximus.
Non, quand on parle d'emploi, ce sont des emplois véritablement à durée indéterminée. C'est principalement pour des nouveaux services, les domaines de sécurité, des domaines d'emploi digitaux, les domaines de marketing
digitaux.
Du long
terme, quelque part, ou pas du tout ?
Oui, bien sûr, vraiment des contrats long terme qui vont nous permettre d'offrir les services que l'on veut offrir et que nos clients demandent. Les entreprises, aujourd'hui, de plus en plus, viennent chez nous en disant nous devons nous transformer, nous devons nous-mêmes devenir plus digital. Proximus, aidez-nous.
C'est quoi un emploi digital pour le grand public ? Expliquez-nous.
Ce sont des gens qui peuvent instaurer, par exemple, dans des entreprises, des nouvelles plateformes pour que vous puissiez travailler de la maison, vous puissiez communiquer à travers des services vidéo, que vous puissiez protéger vos données, vos services à travers des systèmes de sécurité. Ça, c'est dans le domaine de l'entreprise.
Dans le domaine plus grand. Vous ne pouvez pas former vos employés actuels à ce genre de métier ?
Alors oui, on a déjà commencé un certain nombre de formations. Dans le plan de transformation, on a quasi doublé aujourd'hui, où nous avons l'intention de doubler les montants dans la formation. Et ça sera effectivement une des opportunités importantes que nous allons maintenant offrir à nos employés, c'est de eux-mêmes pouvoir se former vers ces métiers du futur, qui sont plus des métiers digitaux, qui sont plus des métiers dans le software et parfois moins des métiers dans le concret, dans l'hardware, comme on a eu par le passé.
Dominique Leroy, vous n'allez peut-être pas vouloir répondre à la question. On a dit beaucoup de choses sur le timing, sur votre rencontre aussi avec le Premier ministre. Il vous aurait dit de revoir votre copie. C'est vrai ? C'est faux ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, je crois que le Premier ministre, il était particulièrement mécontent du fait qu'il a appris la nouvelle par voie de presse. Et je le comprends. Et nous aussi, nous étions choqués par le fait qu'il y a eu une fuite qui a fait que l'information de la transformation a finalement été mise dans la presse, plus sous une forme de plan de restructuration que de plan de transformation. Et il était prévu de faire les annonces la semaine prochaine, ce qui nous aurait permis de d'abord informer les partenaires sociaux, les employés, mais bien sûr aussi dans la foulée, le politique.
Une fuite identifiée ?
Non, pas du tout.
C'est un coup bas pour vous, tout de même ?
C'est quelque chose de dommageable, parce que ça a créé énormément d'incertitudes auprès du personnel. Ça n'a pas permis de suivre la bonne gouvernance des syndicats. Donc, voilà, après, maintenant, l'information, elle est là. On a essayé d'accélérer la tenue d'une commission paritaire le plus rapidement possible, ce qu'on a fait ce matin à 8 heures, pour pouvoir, effectivement, partager nos plans de manière plus concrète, puisque... Avant d'avoir informé les partenaires sociaux, nous ne pouvions rien dire.
Mais revenons à cette question. Est-ce que le gouvernement vous demande de revoir votre copie? Et est-ce que vous allez la revoir? Est-ce que c'est possible?
Mais on va discuter avec les partenaires sociaux. Et dans ce contexte-là, il est possible que la copie soit revue. Mais ça sera dans le contexte de négociations sociales avec les partenaires sociaux. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est une entreprise publique autonome. Et je pense qu'il faut insister sur le mot autonome. Ce n'est pas toujours la perception qu'on a. Mais aujourd'hui, la loi qui régit la gouvernance de l'entreprise, la loi de 1991, a aussi encore été transformée il y a 2 ans pour encore réduire le lien entre l'entreprise et le politique. Et aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité pour l'État d'intervenir dans la gestion de l'entreprise. La gestion de l'entreprise se fait à travers son conseil d'administration qui, lui, est informé par le management de la stratégie, des plans de l'entreprise. Et la date à laquelle le conseil a été informé de ses intentions de diminution des coûts et de potentiellement commencer un dialogue social, c'était mardi passé. Donc il n'y a eu non plus pas de possibilité pour nos administrateurs d'informer le gouvernement.
Alors vous dites, c'est vrai que le politique n'a pas à intervenir dans la gestion. On sait quand même que les relations avec le gouvernement n'ont pas toujours été simples. Est-ce que quelqu'un comme Alexander De Croo, qui était ministre de tutelle, a été un facilitateur ou un complicateur pour vous ?
Je pense que le ministre De Croo, il a joué son rôle. Il a toujours eu une vision de favoriser la concurrence, de faire
trop
pression sur les prix. C'est clair qu'aujourd'hui, on est confronté avec un marché où la demande augmente très fort, mais malheureusement, cette demande qui augmente ne se traduit pas du tout dans une croissance du marché en valeur. Donc c'est comme si vous deviez investir beaucoup plus, dans plus d'antennes, dans la fibre optique. Vous êtes confronté à des coûts en hausse, mais vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre d'affaires parce que la concurrence d'aujourd'hui, la suppression des frais d'itinérance, par exemple par l'Europe, demain la suppression des frais pour les appels internationaux font que la valeur du marché est au mieux stable et que du coup on est effectivement confronté à cette problématique de hausse des coûts et pas de hausse du chiffre d'affaires.
Ce quatrième opérateur qu'Alexandre De Croo avait annoncé, c'est vraiment une mauvaise chose pour vous, pour Proximus ?
Je pense que c'est une mauvaise chose pour le secteur dans sa globalité. On l'a dit haut et fort au moment où ça a été proposé. Il y a une étude qui a été réalisée par Agoria qui montre les potentielles conséquences sur l'emploi, mais aussi sur l'investissement, sur la rentabilité des entreprises. Alors je voudrais préciser que ce n'est pas le fait qu'il y ait un quatrième opérateur qui peut venir, qui a servi de base à ce plan. Ce plan est vraiment un plan de transformation lié aux demandes des clients, lié aux besoins de transformer l'entreprise. Mais je pense que le timing qui est aujourd'hui, qui n'est finalement pas le timing le meilleur, il a été, lui, influencé par le risque potentiel d'un quatrième opérateur à l'horizon de 2020-2021.
Il fallait faire vraiment vite.
Mais il ne faut pas être une entreprise qui est en transformation et en partie, effectivement aussi, avec un plan qui inquiète et qui les employés, dont on est bien conscient, au moment où vous êtes confronté potentiellement à une concurrence accrue dans le marché.
Alors on le sait quand même, les relations ne sont pas toujours faciles avec le gouvernement qui reste, en tout cas l'État belge, le principal actionnaire de Proximus. Est-ce que vous seriez favorable à une privatisation complète de Proximus ?
Moi, d'abord, je ne peux pas me prononcer sur ce point-là. Je pense que c'est une décision vraiment du gouvernement.
Mais j'ai toujours mis en avant l'importance.